Bonjour et bienvenue à l'Art d'être humain, votre complice pour comprendre et embrasser la complexité, la beauté et les défis d'être humain, de la salle de réunion au salon familial, dans votre relation avec vous-même et avec les autres. Parce que vous le savez, l'expérience humaine est remplie de défis et à la fois immensément belle. Être humain, c'est être capable de tenir ces deux vérités à la fois. C'est embrasser cette complexité et c'est tout un art. Je suis Pascale Dufresne et à chaque épisode où se mélangent la science et l'art du développement humain, j'explore avec vous une question sous des angles nouveaux et révélateurs. Parce que je marche cette route d'exploratrice avec vous à partir de ma propre expérience. Aujourd'hui, nous parlons du cynisme. Et ces temps-ci, hein, faut l'avouer, il suffit d'ouvrir son téléphone le matin pour sentir monter en soi une vague de cynisme. Les manchettes qui nous bombardent d'informations sur la montée des extrêmes, la polarisation sociale, les conflits qui s'intensifient, et sans parler de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, où la démocratie semble danser sur un fil. Alors, on pourrait se dire, ah, les humains, ça ne changera jamais. Mais où donc s'en va notre monde? À quoi bon essayer? Ça ne changera rien. Peut-être que vous reconnaissez ces petites voix, ces pensées qui surgissent quand on regarde l'actualité, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, ou même parfois dans nos conversations quotidiennes. Et c'est fascinant, non? Parce que même les plus optimistes d'entre nous abritent probablement un petit cynique intérieur qui attend son heure pour se montrer, qui observe le monde avec un sourcil levé et un demi-sourire désabusé qui se dit « Je ne me ferai pas avoir, moi, je sais comment ça marche. » Et il faut bien l'admettre, ce cynisme ne vient pas de nulle part. Il s'est construit au fil de nos déceptions, de nos désillusions, de nos rencontres avec la complexité parfois sombre du monde. Il s'est nourri de nos expériences, de nos observations, de notre désir légitime de nous protéger. Mais voilà la question qui me fascine et que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Et si le cynisme était seulement qu'une étape dans notre développement humain? Et si plutôt qu'une façon de voir le monde final, c'était un passage vers quelque chose de plus profond, de plus nuancé, une certaine sagesse? Comment est-ce qu'on peut naviguer entre la naïveté et le cynisme? Comment est-ce qu'on peut garder les yeux ouverts sur la réalité du monde tout en préservant notre capacité d'espérer et d'agir? Comment cultiver un regard lucide qui n'abandonne pas pour autant la possibilité du bien, du beau et du changement? C'est le voyage que je vous propose aujourd'hui, un voyage au cœur de cette tension que nous connaissons tous entre notre désir de croire en l'humain et notre peur d'être déçu, entre notre aspiration à contribuer au monde et notre tentation de nous en protéger. Alors partons ensemble à la découverte de ce que la science, la philosophie, l'expérience humaine peuvent nous apprendre sur le cynisme et sur ce qui peut exister au-delà. Le plan de l'épisode d'aujourd'hui, on va passer à travers quelques définitions pour y voir plus clair. Ensuite, je vous parle d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui parle de l'espoir pour les cyniques. Un antidote au cynisme, ensuite, Sundar. Ensuite, le cynisme comme une étape de développement. On va explorer ça ensemble. Et en conclusion, alors, est-ce qu'il réside un cynique en chacun de nous? Je vous propose d'explorer cinq façons différentes de voir le monde, le cynisme, le scepticisme, le pessimisme, l'optimisme et la naïveté. Et en comprenant mieux ces différentes attitudes, peut-être que nous pourrons trouver une façon plus sage de naviguer dans la complexité de notre monde. Alors, on va commencer par bien définir ces termes et je me suis inspirée de ce livre que j'aime beaucoup, le Dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, pour tenter d'y voir plus clair dans la définition de mots là, qui sont reliés au cynisme. Alors, commençons par le cynisme lui-même. Et je ne sais pas si vous saviez qu'il existe le cynisme antique et le cynisme moderne, qu'avant d'être cette attitude désabusée là, qu'on connaît aujourd'hui, c'était une véritable école de sagesse. J'ai appris cela en lisant André Comte-Sponville, justement. Du temps de Socrate, le cynisme, c'était une école de sagesse menée par des philosophes qui cherchaient la vérité et la liberté. Leur approche, c'était de refuser les faux-semblants, les conventions vides, les on-dit, les il faut. Ils voulaient voir la réalité telle qu'elle est, sans maquillage. Aujourd'hui, bon. Le cynisme d'aujourd'hui, c'est cette tendance à voir le pire partout. Les gens ne pensent qu'à eux. Tout le monde a un agenda caché. Les gens ne changeront jamais. Donc, c'est devenu synonyme de méfiance systématique. En mots plus simples, c'est comme de dire « je ne crois plus aux belles histoires, je vois les choses comme elles sont vraiment ». Le cynique moderne, il pense qu'il a tout compris du monde et ce qu'il a compris n'est pas joli joli. Alors maintenant, explorons ce avec quoi on le confond souvent. D'abord, le scepticisme. Le scepticisme, lui, c'est tout autre chose. Imaginez quelqu'un qui dit « montre-moi, prouve-moi, explique-moi ». Le sceptique ne rejette pas tout, il fait preuve d'esprit critique. Il doute, examine, il questionne, il cherche à comprendre. Donc, c'est une posture intellectuelle qui cherche la vérité sans prétendre la posséder définitivement. C'est comme être un bon détective, là, plutôt qu'un juge qui a déjà son verdict tout prêt. Le scepticisme, selon notre philosophe Comte Sponville, c'est penser que toute pensée est douteuse, que nous n'avons accès à aucune certitude absolue. Donc, en clair, c'est garder un point d'interrogation sain dans notre esprit. Pas pour tout rejeter, mais pour rester curieux, ouvert, prêt à apprendre. Troisièmement, le pessimisme. Le pessimiste, lui, met les choses au pire. Soit il juge qu'il y a plus de mal que de bien dans le monde, soit il pense que tout va empirer. C'est différent du cynique qui, lui, refuse de croire au bien. Le pessimiste, lui, voit le bien, mais il pense que le mal l'emporte toujours. Nous allons aller de l'autre côté du spectre, là où on trouve l'optimisme. Contrairement à ce que pensent les cyniques, l'optimisme n'est pas une naïveté béate. C'est de voir les choses comme elles sont, puis se donner les moyens de les transformer. Et cinquièmement et dernièrement, la naïveté. Eh bien, la naïveté. On pourrait penser que c'est l'opposé du cynisme, mais pas nécessairement, c'est plutôt son miroir déformant. Si le cynique voit le mal partout, le naïf ne le voit nulle part. Donc, les deux manquent de cette nuance critique qui fait la richesse de la pensée. Alors, peut-être que la vraie sagesse, ce n'est ni de tout rejeter comme le cynique, ni de tout accepter comme le naïf, mais de cultiver cette capacité à voir le monde tel qu'il est, tout en gardant la volonté de le rendre meilleur. Alors, pour résumer là, ces concepts, comment ça s'articule? Le cynique dit « tout est pourri ». Le sceptique demande « est-ce vraiment ainsi? » Il analyse « voyons voir ce qui se passe réellement ». L'optimiste lucide affirme « il y a des problèmes et nous pouvons agir ». Le naïf dit « tout est parfait ». C'est important de faire ces distinctions parce qu'elles nous montrent que nous avons un choix. Le cynisme, ce n'est pas la seule réponse mature face à la complexité du monde. Il existe d'autres façons de voir, de penser et d'être. Alors maintenant que nous avons clarifié ces concepts, dans notre prochain point, nous allons voir comment la science moderne nous aide à comprendre pourquoi le cynisme est si tentant, mais comment nous pouvons le dépasser. De l'espoir pour les cyniques. J'ai découvert ce livre-là, Hope for Cynics, The Surprising Science of Human Goodness, c'est écrit par Jamil Zaki, professeur de psychologie à Stanford. J'ai découvert ça un petit peu par hasard en écoutant un balado. C'est paru tout récemment en 2024. Alors, je vais vous résumer les points essentiels de sa pensée. L'auteur, Jamil Zaki, part d'un constat que nous vivons dans une époque qui encourage le cynisme. Hein? Comme on disait plus tôt, les médias, les réseaux sociaux, les crises multiples nous poussent à voir le pire chez les autres. Mais ses recherches en psychologie sociale révèlent que ce cynisme est, d'abord, scientifiquement inexact. Il déforme notre perception de la réalité. Il est socialement dommageable. Il crée des servitudes de méfiance. Et il est personnellement épuisant parce qu'il nous prive de connexions enrichissantes. Sa thèse centrale, le cynisme n'est pas de la lucidité, c'est un biais cognitif. Intéressant, non? Nos cerveaux sont programmés pour donner plus de poids aux informations négatives qu'aux informations positives. C'est le biais de négativité. Ça crée une vision déformée de la réalité. Ses recherches montrent aussi que la plupart des gens sont plus altruistes que nous le pensons. J'aime bien lire ça. La bonté et la coopération sont des forces évolutives puissantes. J'aime bien lire ça aussi. Les humains ont une capacité naturelle à l'empathie et à la compassion. Oh, que j'aime lire ça aussi. Alors, sa solution, non pas d'être un optimiste naïf, mais ce qu'il appelle être le « hopeful skepticism ». C'est un peu difficile à traduire en français, mais disons que ça se rapprocherait d'un scepticisme constructif. Ce serait comme une approche qui combinerait la rigueur scientifique dans l'observation, l'ouverture à la possibilité du bien et l'engagement actif dans la création de cercles vertueux. Et je vais vous laisser avec, dans cette section-ci avec une citation de Jamil Zaki. Voici ce qu'il dit. J'ouvre les guillemets. Le cynisme est un manque de confiance dans les gens. Le scepticisme est un manque de confiance dans nos hypothèses. Les cyniques imaginent que l'humanité est horrible. Les sceptiques rassemblent des informations sur les personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Ils s'accrochent à leurs croyances avec légèreté et apprennent rapidement. Alors voilà ce qui conclut notre section sur l'espoir pour les cyniques. Et je vous emmène dans un autre monde maintenant. Est-ce qu'il y a un antidote au cynisme? Où est-ce qu'on va à partir de là? Alors, j'ai une autre référence pour vous aujourd'hui, une autre trouvaille qui m'a complètement fascinée. Vous allez trouver ça là, en ligne, Google, sur YouTube aussi. Ça s'appelle « Le Dictionary of Obscure Sorrows ». Je vais vous mettre le lien dans les commentaires de ce balado. Et le Dictionary of Obscure Sorrows a créé des termes, a créé des mots pour des expériences humaines que l'on n'a pas de mots nécessairement. Ils ont créé ce concept qui s'appelle « sonder ». Là, je vais le dire en français là, pour le bienfait ici là, du balado, « sonder ». S-O-N-D-E-R, qui est presque un antidote naturel au cynisme. Alors, « sonder », ça décrit, c'est un mot inventé, hein, je le répète par eux, ça décrit une expérience que nous avons tous vécue, mais pour laquelle nous n'avions pas ce mot, cette prise de conscience soudaine, là, que chaque personne que l'on croise vit une vie aussi riche et complexe que la nôtre. Chaque personne qui passe a ses propres espoirs, ses peurs, ses souvenirs, ses batailles intérieures, ses moments de joie et de doute. C'est le mot « sonder », « sonder ». Pourquoi est-ce un antidote au cynisme? Ben, parce que le cynique a tendance à voir les autres comme des personnages secondaires dans son histoire, des êtres prévisibles hein, qui sont guidés par leurs pires instincts. Les gens ont tous ceci, cela. Tout le monde ne pense qu'à ci, qu'à cela. Mais quand on sonde, on ne peut plus réduire les autres à des caricatures. Comment maintenir son cynisme quand on réalise que cette personne qui nous a bousculés ce matin vit peut-être le pire jour de sa vie? Ce collègue difficile porte peut-être des batailles dont on n'a aucune idée. Cet inconnu qui nous sourit dans la rue a toute une histoire, des espoirs, des peurs, des joies et des peines. Alors sonder, c'est comme mettre des lunettes 3D sur notre vision du monde. Là où le cynique voit tout en noir et blanc, on commence à voir toutes les nuances, toute la profondeur de l'expérience humaine. Et ce n'est pas un appel à la naïveté, c'est une invitation à la complexité et à l'humanité. À voir les autres, non pas seulement comme ils sont, mais comme ils pourraient être, devenir, avec leurs contradictions, leurs luttes, leurs aspirations. Et peut-être que dans ce regard plus profond, ben, peut-être que réside là-dedans le début d'une sagesse plus riche que le cynisme. Le cynique réduit les autres à leurs pires actions, intentions, sondé nous rappelle l'humanité. Hein? Alors, cette simple prise de conscience peut être le premier pas pour sortir du cynisme, non pas vers la naïveté, mais une compréhension plus riche et, je dirais, aussi à individualiser chaque personne, de remplacer le « ils sont tous comme ça » par chacun d'entre eux. Voilà. Maintenant, une idée un petit peu pour se décadrer par rapport au cynisme. Et si le cynisme était une étape de notre développement? Après avoir exploré les différentes définitions, découvert un peu ce que la science aura à dire, l'importance de sonder, peut-être que la question qui importe maintenant, c'est que faire de notre cynisme? Le cynisme, ça peut sembler une réponse naturelle à nos déceptions. C'est même une réaction qui fait sens là, au point de vue évolutif, parce que si notre cerveau est programmé pour donner plus de poids aux expériences négatives que positives, hein, ben, nous sommes plus motivés à chercher des situations négatives que les positives. C'est normal. Il y a évolution comme un parcours naturel, parce qu'au début, on est dans la naïveté, on fait confiance au monde sans discernement, puis vient dans nos vies la trahison, la déception, ce qui nous blesse. On bascule alors dans le cynisme. Et on croit être devenu plus intelligent. Et d'une certaine façon, ben, nous le sommes, hein, parce que le cynisme est effectivement une progression par rapport à la naïveté. Mais c'est la solution facile. On n'a pas besoin de chercher à comprendre l'autre, on saute directement aux conclusions, on évite l'effort d'analyser chaque situation dans sa complexité et il n'y a pas d'évolution. L'acteur et chanteur Jeff Bridges dit, et j'ouvre les guillemets, « Les cyniques ne sont souvent que des romantiques meurtris. Derrière leur carapace de cynisme se cache une sensibilité à vif, une petite flamme fragile qu'ils protègent, qui continue de brûler malgré les blessures. » Je ferme les guillemets. Le cynisme, peut-être, donc, ne serait pas une destination finale. La vraie sagesse serait de transcender le cynisme. Ce serait de reconnaître que oui, nous portons en nous des zones d'ombre, des motivations complexes, des blessures, et pourtant choisir consciemment de tendre la main. Non pas par naïveté cette fois, mais parce que c'est ainsi que nous nous élevons mutuellement et on en est conscient. Alors, le cynisme, je dirais, ne peut pas coexister avec une vraie humilité ou une réelle empathie. Hein, parce que l'humilité nous pousse à apprendre plutôt qu'à présumer, à comprendre plutôt qu'à juger. Et c'est peut-être là que se trouve la clé dans cette progression de la naïveté vers une sagesse consciente, en passant par le cynisme comme une étape d'apprentissage, mais pas comme la destination finale. Je trouve ça fascinant comme perspective. Donc, Et je vous inviterai à ce point-ci à prendre un instant pour vous rappeler une expérience négative qui vous a marqué. Et peut-être un moment où quelqu'un vous a trahi, déçu, manipulé. Des expériences s'impriment profondément dans nos mémoires, hein, et peut-être qu'à ce moment-là, quand c'est arrivé, vous vous êtes dit « ben, je ne me ferai plus avoir ». Et le cynisme est devenu une protection, une armure. Alors, prenez un moment pour réfléchir à peut-être une expérience en ce sens-là. Et se dire qu'il y a un renoncement à demeurer dans cette posture parce qu'on risque de passer à côté de quelque chose d'essentiel, la possibilité de connexion authentique, d'opportunités de collaboration, de moments de vraie confiance. Alors, cette vraie sagesse, celle qui transcende le cynisme, est-ce que ce ne serait pas de choisir consciemment la confiance tout en gardant les yeux ouverts? De comprendre que la méfiance systématique nous isole autant qu'elle nous protège. Hein? C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Reconnaître que même si la trahison est possible, la connexion aussi est possible et vaut le risque. Alors, en conclusion, est-ce qu'il réside un cynique en chacun de nous? Hein? Est-ce que cette voix-là qui murmure « méfie-toi », qui nous rappelle nos déceptions passées, qui veut nous protéger, est-ce qu'elle existe en chacun de nous? Moi, je dirais que oui, mais que ce n'est pas une voix, ce n'est pas la seule voix, c'est qu'une voix parmi tant d'autres. Il y a aussi en nous hein, ce sceptique qui pose des questions, cet optimiste qui voit des possibilités, cet être capable de sonder d'empathie, de voir la profondeur chez les autres. Alors, je dirais, moi, que le cynisme, ce n'est pas notre ennemi. C'est un professeur qui nous a appris la prudence. Mais comme tout bon professeur, il doit savoir quand se taire pour laisser la place à d'autres apprentissages. Et donc, ça pourrait être ça, la vraie maturité. Pas de faire taire le cynique en nous, mais ni le laisser diriger notre vie. C'est de l'accueillir comme une voix parmi d'autres, un conseil parmi d'autres, une perspective parmi d'autres. Et peut-être que la prochaine fois que cette voix cynique s'élèvera en vous, vous pourrez lui dire « oui, je t'entends » et « je choisis quand même de tendre la main, d'oser la confiance, de voir la complexité de l'autre. » Non pas parce que je suis naïf, mais parce que je suis plus sage qu'avant. Et pour terminer cet épisode, je voudrais partager avec vous un texte. J'en profite pour saluer chaleureusement les 50 leaders avec qui j'étais la semaine dernière. On était dans le thème de la complexité et je leur ai demandé si le cynisme et l'optimisme étaient un thème qui les intéressait et je leur ai performé ce texte-là. Ça nous a mis dans une belle conversation. Ils m'ont demandé de leur envoyer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode de balado avec. Alors, voici. Alors, je vous salue chaleureusement et merci à vous de m'avoir donné l'idée pour ce thème. Et c'est aussi un texte que j'ai performé lors d'une compétition de slam à Montréal l'an dernier. Il met en scène ce dialogue intérieur entre mon cynique intérieur et mon optimiste. C'est une autre façon, un petit peu plus poétique cette fois, d'explorer cette danse entre méfiance et espoir, protection et ouverture. Alors, je vous laisse sur cette invitation. Parfois, on a cette noble intention de vouloir changer le monde, mais c'est une mission qui est trop vaste, très vaste. Par contre, changer notre regard sur le monde, ça, c'est à notre portée. Alors, je dirais que c'est en résumé l'invitation de cet épisode d'aujourd'hui. Alors, restez là pour l'écoute de ce texte de slam et je vous dis bonne écoute et à tout bientôt, je l'espère, plein de tendresse vers vous. Cher optimiste, tu es trop idéaliste, un calinours naïf qui voit le verre à moitié plein. Les problèmes, des cadeaux de la vie mal emballés. Les défis, des opportunités camouflées. Une tempête, le soleil brillera toujours après. Pareil pour le tunnel, au bout, il y a toujours une lumière. Tu as un désir, pour toi, l'univers conspire, c'est clair. Après la pluie, il y a toujours le beau temps, c'est presque mathématique. La vie t'envoie des citrons, toi, tu te fais un gin tonic. Tu es comme ce petit canard dans le bain qu'on essaie de faire caler, qui refait toujours surface avec le sourire d'en face. Et ça m'agace. Cher cynique, toi, idéaliste déçu, pas si loin de moi, une cynique rescapée. Les déceptions et trahisons ont eu raison de ta confiance. Tu t'es promis de te garder loin de toute souffrance. Dans ton monde teinté de tragique, où chaque espoir semble pathétique, après la pluie, ben, il y a les moustiques. Pour toi, la lumière au bout du tunnel, c'est sûrement un train. Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est sûrement le cas. On n'a jamais rien, sans peine, pas de gain. Cher optimiste, face aux ombres et aux ténébreux, je refuse de fermer les yeux. Le gardien de ma lucidité, c'est mon indignation, un feu qui brûle contre l'indifférence et l'illusion. Cher cynique, tu peux penser que je suis sensible, rêveuse, utopiste, mais je ne m'excuserai plus jamais d'embrasser l'espoir, la joie et la beauté. Et je n'ai pas envie de me demander si l'homme est fondamentalement bon, car en l'absence de certitude, il me reste la liberté de ce en quoi je peux croire. Et mon choix est clair entre le cynisme et l'espoir. Même lorsque le monde est fou et qu'il s'effondre, c'est l'engrais pour faire ma part pour le monde. Cher cynique, cher optimiste, je vous vois. Vous avez besoin l'un de l'autre pour vous révéler. L'optimiste en moi grandit où le cynique ose questionner. Toi, le cynique, je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu es la création de mon passé, de toutes mes angoisses rassemblées, illuminant les recoins sombres, le maestro de mes jours de pénombre, la voix de ma prudence, l'écho de mes peurs et doutes. Toi, l'optimiste, flambeau de l'espoir, traçant des chemins et des routes, tu crées un futur différent pour mes enfants. Dans un monde en mouvement, tu es mon fil constant. Je suis ce théâtre qui se joue dans mon esprit. Vous êtes les acteurs de cette pièce qu'est ma vie, cet ensemble que vous écrivez mes poésies. Le rideau ondule, révélant vos vérités sincères. C'est en touchant mes propres nuits que je découvre la puissance de ma propre lumière. Et avant d'embrasser les paradoxes du monde extérieur, il me faut accueillir mes propres voix et douleurs. Je ne cesserai pas de m'indigner de ce qui me blesse de notre humanité, mais quand me prendra l'envie de la détester, je forgerai de cette rage un pont vers demain pour que jamais mon amour pour le monde ne soit éteint. »